Bonsoir à tous. Remettre l'ambition écologique au cœur du modèle productif. Emmanuel Macron donne son feu vert à presque toutes les propositions de la Convention climat. Mais pas d'écocide dans la Constitution, ni de 110 km/h sur autoroute. Détails et réactions dès le début du journal. Celles notamment du nouveau maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. Nous serons aussi à Marseille, où le suspense reste entier, avant l'élection du maire samedi, Rubirola ou Vassal. Et dans l'ancienne cité minière de Carmaux, perdue par le PS, longtemps après Jaurès. Au sommaire également ce soir, les peines sévères au procès Fillon, les emplois fictifs de Pénélope, 5 ans, dont 2 fermes notamment. Pour l'ancien Premier ministre, le couple fait appel. Le début de la fin du réacteur 2 de Fessenheim, les enfants plus sédentaires encore avec le confinement. Et au téléphone sonne, bonsoir Pierre Veil.
Bonsoir Sébastien
Paou. Le second tour des municipales, Pierre.
Analyse de ce scrutin avec Martial Foucault, politologue et directeur du Centre de Recherche Politique de Sciences Po Paris, Gaël Slimane, président et cofondateur de l'Institut de Sondage Odoxa, et Thomas Legrand, éditorialiste politique, chaque matin dans le 7-9 de la semaine sur France Inter à 8h moins le quart. Vos questions 01 45 24 7000, vos mails sur franceinter.fr et bien sûr l'application France Inter.
A tout à l'heure Pierre, dans 20 minutes.
France Inter.
Ils ont travaillé 9 mois pour livrer 149 propositions pour le climat. Emmanuel Macron retoque donc 3 idées seulement de la Convention citoyenne. Il refuse de réécrire le préambule de la Constitution pour y inscrire la lutte contre le réchauffement climatique. Il refuse une taxe de 4% sur les dividendes des entreprises qui découragerait l'investissement, selon lui. Et il refuse la mesure qui a peut-être fait le plus parler, les 110 km/h sur autoroute. Oui, en revanche, à 2 référendums, un sur l'introduction des notions de biodiversité, d'environnement, dans l'article 1er de la Constitution, l'autre, dès l'an prochain, sur des mesures spécifiques. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Le président ne pouvait pas être plus vert en ce lendemain de vagues écologistes au municipal.
Et non, et ni choisir de cadre plus bucolique dans les jardins de l'Élysée. Le chant des oiseaux en fond sonore. Emmanuel Macron salue le travail des 150 de la Convention. En creux, il dit aussi avoir entendu les Français qui ont voté écologistes dans les grandes villes hier soir.
Ils veulent retrouver une ville à l'échelle humaine où on vit mieux. Moins de voitures. Ils ne veulent plus de nouvelles grandes surfaces en périphérie. Ils veulent retrouver des commerces de centre-ville et de l'échange humain au plus proche. Ils veulent là aussi, au quotidien, comme vous l'avez décrit, un nouveau projet de vie ensemble, beaucoup plus humaniste et de qualité.
Emmanuel Macron dit d'ailleurs bonne idée à la proposition de diviser par 2 les surfaces urbanisables.
Qu'en pensent les 150 citoyens ?
Eh bien écoutez, d'abord ils ont savouré leur présence à l'Élysée, selfie, discours, cocktail sur la pelouse, une reconnaissance après 9 mois de travaux. Emmanuel Macron a rejeté, vous le disiez, 3 propositions sur les 149, l'abandon de la limitation à 110 km/h sur autoroute, pas de regret pour Jean-Luc, 60 ans, originaire de la Somme.
Et il a raison. Depuis une semaine, on parle que de ça, des 110 km/h. Depuis une semaine, la Convention s'est fait démolir là-dessus. Bon, j'espère que là, on aura de bons échos. Mais sur nos 149 mesures, de quelles autres avez-vous entendu parler ?
On en a parlé de beaucoup sur Inter quand même. Sur d'autres mesures, le président Sandy est resté flou.
Oui, sur les logements mal isolés par exemple. Faut-il interdire les passoires thermiques ? C'est un oui, mais c'est compliqué. Reconnaître le crime contre l'environnement, l'écocide dans le droit pénal. On va d'abord défendre l'idée au niveau international. Guillaume, 24 ans, originaire de La Réunion, promet d'être vigilant sur l'application des propositions de la Convention citoyenne.
Aujourd'hui, il a tenu sa promesse. Je suis satisfait, maintenant j'attends les actes. Voilà, c'est pas fini, parce qu'on nous a donné le droit d'alerte et moi je compte bien l'utiliser. Si l'esprit général d'une des mesures est changé, je serai très vigilant là-dessus.
L'aventure est loin d'être terminée. Les 150 de la Convention vont maintenant être associés aux travaux du Parlement.
Sandy Dauphin, le chef de l'État, dit aussi qu'il veut d'autres conventions citoyennes sur d'autres sujets. Il veut réformer le Conseil économique, social et environnemental. Il est en phase verte, voilà qui tombe donc très bien au lendemain du second tour des municipales. Ce passage au vert de Bordeaux, Strasbourg, Besançon, Poitiers, Annecy, Pointe-à-Pitre et surtout de Lyon où les écologistes font même le doublé, métropole et ville. Le nouveau maire, Grégory Doucet, espère que les paroles présidentielles d'aujourd'hui seront effectivement des actes demain. Il est avec Frédéric Carbone.
Considérer que les ressources sont sans limite, c'est l'erreur que l'on fait depuis des décennies. Donc on a besoin d'apprendre à être raisonnable. Quand le chef de l'État, par exemple, dit qu'il ne veut pas interdire les vols aériens sur des courtes distances, il renonce à réaliser un arbitrage qui, pourtant, il ne serait pas que symbolique, mais concrètement pourrait avoir un effet significatif sur le dégagement de CO2. Il l'a dit lui-même, il faut aller vite et on a déjà perdu beaucoup de temps. Emmanuel Macron, il a quand même eu Nicolas Hulot à ses côtés pendant un certain temps. Il s'est rendu à la mer de glace et il s'est rendu compte par lui-même que la mer de glace fondait. Mais que n'a-t-on attendu déjà trop de temps pour s'engager concrètement dans la réalisation, dans la transition écologique? C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, moi, j'attends des actes et j'attends aussi qu'une réelle concertation avec les collectivités territoriales s'engage pour qu'on aille tous dans le même sens.
Emmanuel Macron promet aussi 15 milliards d'euros sur 2 ans pour la conversion écologique de l'économie. Il dit aussi oui à un moratoire sur les zones commerciales en périphérie des villes. Même pas peur, lui répond en substance Gontran Thuringe, délégué général du Conseil national des centres commerciaux, joint par Manuel Ruffez.
Il y a un côté politique, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'elles interviennent juste après les élections municipales, avec l'arrivée d'un certain nombre d'élus écologistes dans un certain nombre de villes françaises. Pour votre information, les commerces ne sont responsables que de 4% de l'artificialisation des sols en périphérie. Et puis enfin, le moratoire, entre guillemets, prêché ce matin par le président de la République, il existe déjà, puisque dans le cadre de la loi Élan qui a été votée l'année dernière, les préfets ont aujourd'hui la possibilité de suspendre les demandes d'autorisation pour les projets qui viendraient concurrencer des opérations de revitalisation des territoires. Donc je pense qu'il n'y a rien de très nouveau sous le soleil, qu'il s'agit plus, je dirais, d'une parole politique. Aujourd'hui, pour des raisons à la fois économiques et réglementaires que je viens de vous donner, le problème ne se pose pas en France aujourd'hui.
Enfin, sur le calendrier, Emmanuel Macron veut que toutes les propositions qui sont prêtes soient mises en œuvre au plus vite. Discussion d'ici fin juillet lors d'un prochain conseil de défense écologique. Il annonce aussi un projet de loi spécifique à la fin de l'été.
Sébastien, on verra ce que donnera l'appel, mais en attendant, il est condamné à ne pas pouvoir être élu pendant 10 ans.
L'ancien Premier ministre François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle de 2017, rattrapé en plein vol par les emplois fictifs de son épouse, qui ne faisait que transmettre le courrier à son mari, alors député, pour le tribunal. Il est reconnu coupable de détournement de fonds publics avec Pénélope et son ancien suppléant Marc Joulot et condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Sébastien.
Une peine particulièrement sévère.
Oui, puisque 2 ans ferme, c'est une peine qui n'est pas entièrement aménageable. C'est d'ailleurs ce que dit sans embâge le jugement. La peine est à la hauteur de ses manquements, à ses devoirs de probité et d'exemplarité. Tout en prenant une part active à la vie publique et en prenant un comportement exemplaire, écrivent les magistrats, François Fillon a mis en œuvre un système lui permettant de détourner des fonds publics pour compléter les revenus de son couple. Le tribunal note par ailleurs chez lui une absence totale de remise en question et prononce l'amende maximale de 375 000 euros, même montant pour Pénélope Fillon, également condamnée à 3 ans de prison avec sursis. Certes, elle n'était pas à l'initiative de ces contrats sans consistance, écrivent les juges, mais elle les a acceptés en connaissance de cause. Et puis le troisième homme, Marc Joulot, écope aussi de 3 ans avec sursis, même si l'ex suppléant de François Fillon ne s'est lui pas enrichi personnellement.
Au-delà des amendes, Corinne, l'addition est salée aussi puisque les prévenus vont devoir verser près d'un million, un peu plus d'un million d'euros même de dommages et intérêts à l'Assemblée.
Oui, le tribunal a fait les comptes. Le préjudice de l'Assemblée nationale s'élève à 400 000 euros pour les contrats entre Pénélope Fillon et François Fillon et à 680 000 euros pour les contrats entre Pénélope Fillon et Marc Joulot. Cela comprend les salaires et les charges payées par l'Assemblée. La défense avait tenté de soulever la jurisprudence Kerviel, en arguant que l'Assemblée était quelque part responsable de son propre malheur par manque de contrôle. Argument balayé par le tribunal pour qui les époux Fillon et Marc Joulot sont les seuls responsables du dommage subi.
Alors Corinne Audouin, merci. L'ancien champion de la droite avait presque les clés de l'Elysée en poche en 2017, en tout cas d'après les sondages. Le voici condamné à de la prison ferme. Bonsoir Karine Becker.
Bonsoir.
3 ans après, ses anciens amis, et pas seulement, ont l'impression qu'il paye un peu pour tout le monde.
En fait, la condamnation de François Fillon à 2 ans de prison ferme a fait évidemment l'effet d'une bombe dans la classe politique française. Une classe politique qui observe que depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans, les décisions des juges quand elles concernent des responsables politiques sont de plus en plus souvent, de plus en plus sévères. Patrick Balkany, l'ancien maire de Levallois-Perret, ne dira pas le contraire. Idem il y a 2 semaines pour 6 des prévenus dans l'affaire Karachi, et il est tout à fait probable qu'un sort assez semblable attend Nicolas Sarkozy. En réalité, que s'est-il passé? Après des années, l'opinion publique a fini par s'user de voir des magistrats, parfois un peu trop compréhensifs avec certains politiques. Sauf que le contexte aujourd'hui a radicalement changé, et c'est exactement ce qu'a expliqué la juge cet après-midi, rappelant le devoir de probité, l'exemplarité que les citoyens sont en droit d'attendre d'un ancien député, ancien sénateur et ancien Premier ministre. En tout cas, à l'annonce de son jugement, celui à qui l'Élysée était promis est resté, comme toujours, impassible. On ne pouvait absolument rien lire sur le visage de François Fillon, qui serait donc en train de redevenir un simple citoyen.
Et qui avait un masque chirurgical sur le visage. Merci Karine Bécard. La droite a perdu son poulain en 2017. Elle pourrait perdre la deuxième ville de France après 25 ans de règne. Marseille pourrait passer aux mains de l'écologiste Michel Rubirola. 38% des voix sur l'ensemble de la ville contre 30% à la LR Martine Vassal. Mais pas de majorité au conseil municipal. Il faut donc attendre le troisième tour. Ce sera samedi matin. Olivier Martoc, puisque le scrutin se joue comme à Paris et comme à Lyon, par secteur.
Sur le papier, sur l'ensemble de la ville, la gauche devance la droite de 13 000 voix. En nombre de secteurs, elle est aussi devant, 5 contre 3. Sur les 101 conseillers municipaux qui vont élire le maire de Marseille, 50 sont étiquetés de gauche, 42 LR, 9 Rassemblement National. Là où tout se complique, c'est qu'il y a des haines insurmontables. À gauche, Samy Egali a finalement conservé sa mairie dans les quartiers nord, malgré une liste du printemps marseillais dans une triangulaire difficile face au Rassemblement National. Samy Egali leur en veut. Elle aura 8 élus dans l'hémicycle samedi. À droite, c'est un peu plus simple. Bruno Gilles, le sénateur LR dissident, a dit qu'il apporterait ses 3 voix à son camp si la tête de liste change. Il ne veut pas entendre parler de Martine Vassal. Au troisième tour samedi, le maire de Marseille sera élu à la majorité relative. N'importe quel conseiller municipal pourra faire acte de candidature. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Et du côté du Rassemblement National, Stéphane Ravier est battu dans le 7e secteur. Lui a gommé autant que possible les références au Front National dans sa campagne. L'ancien compagnon de Marine Le Pen, Louis Alliot, prend Perpignan largement, près de 54% des voix. Le parti d'extrême droite décroche aussi Bruel à Buissière dans le Pas-de-Calais et Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Autre nouveauté, toujours en Occitanie, le fief de Jaurès, perdu par le PS. Carmo dans le Tarn n'aura pas de maire socialiste pour la première fois en 128 ans. Sandrine Morin, c'est une liste citoyenne qui l'emporte.
Oui, cette histoire est longue. Elle commence il y a 20 ans.
Campagne 2001.
Bernard Hénal, créateur de Convergence citoyenne.
Nous faisons 14%. Et là, ça ne disparaît pas.
Ensuite, 20%, 32% en 2014. Et entre les élections, des réunions citoyennes, toujours.
Monsieur Bousquet, s'il est là aujourd'hui et s'il va être en fin de semaine le maire de Carmo, que ça fait partir de ces citoyens que nous avons rencontrés au cours d'échanges par rapport à des petits soucis matériels.
Jean-Louis Bousquet était justement là dans une réunion sur le stationnement dans sa rue. Pas beaucoup de monde, mais ce n'est pas grave.
Dans une réunion, on va trouver 10 têtes. La réunion d'à côté, ça va être 5 nouveaux, etc. Et petit à petit, on touche des gens. Et puis c'est aussi une habitude à donner. Mais évidemment, c'est les 20 ans de Convergence qu'on construit ça au fur et à mesure des années.
Et si le mouvement citoyen a pris à Carmo, c'est peut-être justement à cause du PS dans la ville.
Le réflexe, c'était toujours de se référer au parti. À Carmo, le réflexe, on se réfère à Jaurès. J'inviterai tous mes amis à le relire. Mais il a bien dit, aller vers l'idéal, mais en tenant compte du réel. C'est ça, la vie de tous les jours.
Et les citoyens carmosins insistent, il faut surtout faire des propositions, même dans l'opposition, pour pouvoir être audible.
Le PS garde en revanche la capitale, Anne Hidalgo largement réélue, 227 voix d'avance seulement pour Martine Aubry à Lille. Les écologistes avec lesquels elle n'avait pas fusionné ne demandent pas de recomptage. Pas de changement non plus au Havre. Édouard Philippe réélu avec près de 59% des suffrages, de quoi voir venir sereinement le remaniement. Mais du changement, il y en a beaucoup ailleurs, surtout dans les plus grandes villes, celles de plus de 100 000 habitants. 24 sur 42 désormais à gauche, dont 8 remportés par les Verts. Mais dans ces villes, Olivier Bénis, il n'y a pas que les couleurs politiques qui changent, il y a aussi les profils des nouveaux maires.
Et d'abord, 12 des maires de ces 42 villes sont des femmes. Elles sont même à la tête de la moitié des 10 plus grandes villes de France. C'est le cas par exemple d'Anne Hidalgo à Paris ou de Martine Aubry à Lille. L'autre enseignement, quand on se plonge dans tous ces chiffres, c'est qu'il y a un début de passage de relais générationnel. Si l'âge moyen est de 57 ans, plus d'un tiers de ces maires ont désormais moins de 50 ans. La plus jeune, Jeanne Barseguian à Strasbourg, a même moins de 40 ans. Conséquence logique, ces villes ne sont plus monopolisées par de vieux briscards de la politique, puisque 16 d'entre elles ont choisi un ou une candidate qui n'avait jamais été maire auparavant. Mais les novices ne sont pas forcément les plus jeunes. À Montreuil, Patrice Bessac entame par exemple son deuxième mandat à seulement 42 ans, quand Pierre Urmic, à 65 ans, va découvrir le rôle de maire pour la toute première fois à Bordeaux. Bref, en comparaison, Édouard Philippe, moins de 50 ans certes, mais ancien maire et masculin, ne fait pas très nouveau monde.
La victoire, c'est surtout celle de l'abstention, 58,4%. Presque 6 électeurs sur 10 ne sont pas allés voter hier. C'est 20 points de plus qu'au second tour des municipales de 2014.
Sébastien Paour, le réacteur numéro 2 de Fessenheim, un peu en avance.
Sa mise à l'arrêt a commencé à 16h30, alors qu'elle devait débuter à 23h30. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
L'extension totale est attendue juste avant minuit, Delphine.
Oui, le réacteur numéro 2 de Fessenheim doit être déconnecté du réseau avant minuit, avant le 30 juin. Il a donc fallu démarrer un peu plus tôt les opérations que lors de l'arrêt du premier réacteur le 22 février à 16h30. La baisse de charge a commencé. Lorsque le réacteur atteindra 8% de sa capacité, il va se déconnecter automatiquement du réseau électrique. Il sera alors 23h30. Tout sera fini. Le réacteur numéro 2 sera à l'arrêt. C'est la fin d'un long feuilleton politique, promesse de campagne de François Hollande, puis d'Emmanuel Macron, réclamé par les anti-nucléaires, car Fessenheim est situé en zone sismique et inondable. La fermeture a été plusieurs fois reportée, vu les oppositions, en premier lieu celle d'EDF. Pour de nombreux salariés, c'est un crève-cœur. À 40 ans, la doyenne des centrales va donc partir à la retraite. Seule la moitié des 700 salariés va rester sur place pour entamer un nouveau chantier, le démantèlement. Un défi colossal qui, selon EDF, devrait durer 15 ans.
Delphine Simon, une affaire de pédophilie en Allemagne, une des plus grandes du pays. Les autorités enquêtent sur 30 000 personnes suspectées d'activités pédophiles sur Internet.
Le lycée Hippolyte Fontaine fermé à Dijon.
À cause de deux cas de coronavirus parmi le personnel, ils sont en quarantaine et ils n'ont pas été en contact avec les élèves d'après l'Agence régionale de santé. La pandémie est loin d'être finie pour l'OMS et la Chine reconfine près de 400 000 personnes. À 60 km au sud de la capitale. Un nouveau foyer de plus pour Pékin, Dominique André, où de nouveaux cas réapparaissent depuis 3 semaines.
C'est la télévision locale qui l'annonce. Le canton d'Anxin, dans la province industrielle du Hebei, qui touche Pékin, prend les mesures les plus strictes pour enrayer la contagion. Les 390 000 habitants ont l'interdiction de sortir. Une seule personne par famille est autorisée à faire des courses une fois par jour. En montrant un laissez-passer, la prise de température est obligatoire. Anxin est localisé à 130 km du marché de gros de Sinfadi, où un foyer infectieux s'est déclaré mi-juin dans la section réservée aux fruits de mer et à la viande de bœuf et de mouton. Mais un quart des habitants du canton sont employés sur le marché. Les autorités avaient d'abord tenté d'enrayer ce rebond épidémique en interdisant la circulation des voitures il y a une dizaine de jours. Mais la confirmation de 13 malades et de 6 cas asymptomatiques a déclenché le confinement de la population. La situation est grave et complexe, a souligné un porte-parole de la ville. Pékin, Dominique André, France Inter.
Et à New York, les théâtres de Broadway fermés depuis mars le resteront au moins jusqu'en janvier prochain. Et à propos de confinement, cette étude en France pour l'association Assurance Prévention, étude Harris Interactive, qui confirme ce qu'on a constaté et redouté. Coincés à la maison, les jeunes sont encore plus sédentaires, scotchés aux écrans, Véronique Julia, et sans beaucoup d'activité physique.
Avant même la fin mars, on était déjà très loin du compte. Près de 90% des 11-17 ans ne respectaient pas les 60 minutes d'activité sportive quotidienne recommandées par l'OMS. La moyenne était de 3h30 par semaine. Avec le confinement, on est tombé plus bas encore. D'après l'enquête, 14% des 6-18 ans n'auraient pas du tout fait de sport durant la période. Ça monte même à 20% chez les lycéens. Tout ça au profit encore du canapé et des écrans. D'après l'étude, les jeunes ont passé 11 heures de plus chaque semaine à rester immobiles, 33 heures au lieu de 22, plus de télé, plus d'internet, plus de jeux vidéo, plus de conversations sur les réseaux sociaux. Plus de 7 heures de jeux vidéo chaque semaine, par exemple, contre moins de 5 heures avant le confinement. La tendance est plus marquée encore chez les lycéens. Seule bonne nouvelle, le temps de lecture a progressé d'une heure hebdomadaire, le temps de bricolage et de jardinage aussi. Et 6 jeunes sur 10 disent avoir fait du sport en ligne grâce aux applications. Mais le phénomène inquiète les médecins qui pointent prise de poids, perte de conditions physiques et altération des rythmes biologiques, du sommeil en particulier. À la veille des vacances et pour repartir sur de bonnes bases à la rentrée, ils ont donc un message à faire passer. Cet été, il faut bouger.
Et pour bouger, mieux vaut éviter les pubs qui rouvriront samedi en Angleterre, qui pourraient rapporter 230 millions d'euros sur un seul week-end. On s'attend à 6,5 millions de passages au comptoir pour fêter cette réouverture. 1,5 million de plus qu'en temps normal. Le temps.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Bonsoir Jean-Pierre Hameau.
Bonsoir Sébastien.
Il a fait très chaud Jean-Pierre cet après-midi sur la Côte d'Azur.
Oui, effectivement, nous avons relevé 35 degrés 6 à Nice cet après-midi, une valeur exceptionnelle pour un mois de juin. Demain, le mercure ne dépassera pas 27 degrés à Nice. En revanche, la chaleur va intéresser la basse vallée du Rhône, puisque l'on prévoit 33 à Marseille et 34 voire 35 degrés à Nîmes. Et côté ciel, prévoyez du soleil dans la moitié sud du pays demain. En revanche, le ciel sera bâché entre la Bretagne, la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais, avec en prime de toutes petites pluies et des rafales de vent de secteur sud-ouest voisine de 60 km par heure. Les nuages laisseront quand même une petite place aux éclaircies des Pays de Loire à la région centre et de l'Île-de-France à la Champagne-Ardenne. À noter en fin de journée l'évolution orageuse au-dessus du massif pyrénéen. Puis côté température, les maximales d'après-midi seront fraîches en bord de Manche. N'attendez pas plus de 19 à Brest et 20 à Cherbourg. Dans les autres régions, les valeurs seront proches des normales de saison, comprises entre 22 et 30 degrés.
Jean-Pierre Hameau, merci.